Je suis foutu, songea Bob Arctor. Seul dans sa chambre, couché sur le dos et le regard perdu dans le vague, il broyait du noir. Son P-32 était dissimulé sous l'oreiller. En entendant la détonation du calibre 22 de Baris, il avait instinctivement plongé la main sous le lit afin de s'emparer de sa propre arme, habituellement rangée là, et de la placer plus à portée. Mais le revolver ne lui serait pas d'un grand secours contre une manœuvre aussi indirecte que le sabotage de son bien le plus précieux. Dès son retour de la séance avec Hank, il s'était empressé de vérifier l'état de ses autres accessoires, surtout ceux de sa voiture. Toujours vérifier la voiture en premier dans ces cas-là. Tout paraissait normal. Le complot en cours, quel qu'en fût l'auteur, se révélerait sans doute tortueux et moche. L'œuvre d'un salaud dépourvu de cran ou de probité, qui se tenait tapi dans les marges de son existence et le canardait à distance sans se montrer ni prendre de risques. Moins un être réel qu'une sorte de symptôme ambulant et secret de leur mode de vie. Il n'avait pas toujours vécu ainsi, avec un P-32 sous l'oreiller et un détraqué qui s'exerçait au pistolet dans l'arrière-cour, Dieu sait pourquoi. Tandis qu'au dernier étage, un autre dingue, ou peut-être le même, imprimait de force sur un céphascope incroyablement coûteux et apprécié de tous les locataires ainsi que de leurs copains, le tracé de l'activité de son propre cerveau court-circuité. En d'autres temps, Bob Arctor menait différemment ses affaires. Il y avait eu une épouse, très semblable à toutes les autres épouses, deux fillettes, un foyer stable, qu'on entretenait et nettoyait quotidiennement, des journaux périmés et pas même ouverts qu'on portait directement de l'entrée à la poubelle ou que parfois on lisait. Et puis un jour, en allant prendre sous l'évier un appareil électrique à griller le maïs, il s'était cogné la tête au coin d'un meuble à éléments situé juste au-dessus de lui. La coupure de son cuir chevelu, la douleur, inattendue et si peu méritée, avait mystérieusement chassé les toiles d'araignée de son esprit. Il avait compris en un éclair qu'il n'en voulait pas au meuble. Il en voulait à sa femme et aux deux gamines, à la maison dans son ensemble, à l'arrière-cour où était rangée la tondeuse électrique, au garage, au chauffage indirect par radiation, au jardin, à la grille, à toute la foutue baraque et à ceux qui l'habitaient. Il voulait divorcer. Il voulait se tirer. Ce qu'il fit très vite, pour se plonger par degrés dans une nouvelle vie, plus sombre et dépourvue de toutes ces choses. Sans doute aurait-il dû regretter sa décision. Il n'en fut rien. Son ancienne existence avait été dénuée de toute passion, de toute aventure. Trop de sécurité. Tout ce qui la composait s'était trouvé d'un coup exposé à son regard et il ne pouvait rien en attendre de plus. Il avait un jour comparé cette existence à une petite barque de plastique qui voguerait sempiternellement, sans incident, jusqu'au jour où elle coulerait enfin au secret soulagement de tous. Tandis que dans le sombre univers où il séjournait à présent, il ne cessait d'être submergé de choses laides, de choses surprenantes, avec parfois, ô combien rarement, une toute petite chose qui l'émerveillait. Il ne pouvait compter sur rien. Ce sabotage haineux de son céphalochromoscope Altec, par exemple, de cet appareil autour duquel il avait organisé la partie agréable de son emploi du temps, la seule portion de la journée qui leur permettait à tous de se détendre, une parenthèse moelleuse. D'un point de vue rationnel, ça n'avait pas de sens d'endommager délibérément cet objet. Mais chez ces longues ombres crépusculaires parmi lesquelles il évoluait, la notion de rationalité n'avait guère cours, du moins au sens ordinaire. N'importe qui pouvait avoir accompli cet acte mystérieux, et quasiment pour n'importe quel motif. Toute personne connue de lui ou simplement rencontrée. À choisir parmi 8 douzaines de freaks de tout poil, de toxicos complètement cramés, de psychotiques parano interprétant dans la vie réelle et non fantasmés leur délire quérulent. Peut-être même quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, qui s'était contenté de choisir son nom au hasard dans l'annuaire. Ou son meilleur ami. Jerry Fabin, avant qu'on l'embarque. Comme agité du bocal, il se posait là. Lui et ses milliards d'affides, en train d'accuser Donna, d'accuser toutes les nanas de l'avoir contaminé. Quel pédé! Mais si Jerry avait voulu faire des emmerdes à quelqu'un, il s'en serait pris à Donna, pas à moi. Et ça m'étonnerait que Jerry ait su comment enlever la plaque de base de l'appareil. Il aurait bien essayé, mais il serait encore là à serrer et desserrer la même vis. Ou bien il attaquerait la plaque à coups de marteau. De toute façon, si Jerry Fabin avait fait le coup, mon engin serait plein d'œufs de pucerons. Il en sème partout. Bob Arctor sourit mentalement de sa plaisanterie. Le pauvre connard, songea-t-il, et son rictus s'effaça. Le pauvre foutu connard. Une fois que les traces de métaux lourds auront atteint son cerveau, pour lui ce sera la fin. Un de plus sur la longue liste, un morne fantôme parmi tant d'autres, dans le cortège presque infini des débiles mentaux. La vie biologique continue, mais tout le reste, esprit, sensibilité, est mort. Ne reste qu'une machine à réagir, comme une sorte d'insecte. Toujours à répéter sans succès quelques schémas de comportement, un seul schéma peut-être, encore et encore, inlassablement. Que les gestes soient appropriés ou non à la situation. Je me demande à quoi ressemblait Jerry avant. Arctor le connaissait depuis trop peu. Charles Freck prétendait qu'à une certaine époque, Jerry carburait correctement. Il faudrait l'avoir vu pour le croire. Peut-être devrais-je parler à Hank du sabotage de mon céphascope. Il saisirait aussitôt les implications. Oui, mais que pourrait-il faire pour moi? Ce sont les risques du métier. Et ce métier ne vaut pas ça. Il n'y a pas assez de fric sur la foutue planète pour que ça vaille le coup. D'ailleurs, ce n'était pas une question d'argent. Pour quelle raison? Lui avait demandé Hank. Quel que soit le boulot, qu'est-ce qu'un type connaît de ses motivations profondes? L'ennui, peut-être. L'envie que ça bouge un peu. Une hostilité secrète dirigée contre son entourage, contre tous ses amis et même contre les filles. Ou alors, un mobile positif, mais atroce. Avoir vu un être profondément aimé, chéri intimement. Un être qu'on a tenu dans ses bras après l'amour, embrassé, protégé, entouré de ses soins et surtout admiré. Avoir vu cet être se consumer de l'intérieur. Avoir vu l'incendie ravager son cœur puis se propager. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un insecte cliquetant qui répétait la même phrase à n'en plus finir. Un enregistrement. Une boucle sur une bande magnétique. Je sais qu'avec un autre fixe. Avec un autre fixe, ça irait mieux. Se répéter encore cela, comme Jerry Fabin, alors qu'on avait les trois quarts de la cervelle en compote. Je sais qu'avec seulement un autre fixe, mon cerveau serait réparé. Arctor eut un flash. Le cerveau de Jerry Fabin prenant la forme de son céphascope bousillé. Des fils coupés, des courts-circuits, des fils tordus, des éléments en surcharge, inutilisables, des surintensités de voltage, de la fumée et une mauvaise odeur. Et à côté, quelqu'un qui mesurait les différences de potentiel à l'aide d'un voltmètre, tout en murmurant « Eh bien, il va falloir remplacer pas mal de résistances et de condensateurs. » Et ainsi de suite. Finalement, Jerry Fabin n'émettrait plus qu'un bourdonnement de 60 cycles et tout le monde laisserait tomber. Dans le living de Bob Arctor, le céphascope hors série à 1 000 $ fabriqué par Altec et prétendument réparé projetterait sur le mur une petite tache gris terne. Je sais qu'avec seulement un autre fixe. Après quoi, on jetterait le céphascope hors d'usage et Jerry Fabin hors d'usage dans la même poubelle. Et puis quoi, se dit-il? Qui a besoin de Jerry Fabin? Sinon peut-être Jerry Fabin lui-même. L'homme qui avait un jour manifesté le désir de fabriquer une console mixte quadriphonie télé de 3 mètres de haut pour l'offrir à un ami et qui avait répliqué, alors qu'on lui demandait comment il transporterait un objet aussi lourd et volumineux de son garage à la maison du copain. « Pas de problème, mec. Je la plierai. J'ai déjà acheté les charnières. Je plierai tout le bazar, tu vois. Je le glisserai dans une enveloppe et je le lui enverrai par la poste. » Enfin, maintenant, on n'aura plus besoin de chasser les aphides à coups de balai après les visites de Jerry Fabin. Cette pensée lui donnait envie de rire. Naguère, ils avaient mis au point un numéro dû principalement à Luckman, qui ne manquait pas d'esprit dans ce domaine, afin d'apporter une explication d'ordre psychiatrique aux tripes à la fille de Fabin. Comme de juste, il fallait remonter à la petite enfance de celui-ci. Le jeune Jerry est en 6e, et voilà qu'un jour, alors qu'il vient de rentrer de l'école en sifflant comme un pinson, avec tous ses petits cahiers sous le bras, il aperçoit sa mère installée dans la salle à manger, en compagnie d'un aphide vraiment énorme, plus d'un mètre de haut. Sa mère couvre la bestiole du regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande le jeune Jerry. « Voici ton frère aîné, » répond maman. « Tu ne l'as jamais rencontré auparavant, mais il va venir vivre avec nous. Je l'aime mieux que toi. Il peut faire des tas de choses dont tu es incapable. » Après ça, le père et la mère de Jerry ne cessent de le comparer défavorablement à son frère, l'aphide. Comme de juste, le complexe d'infériorité de Jerry s'aggrave au fil des années. Ils achèvent leurs études secondaires et le frère Afid obtient une bourse pour entrer à l'université, tandis que Jerry doit prendre un emploi dans une station-service. L'Afid devient célèbre comme savant ou médecin, il gagne le prix Nobel. Jerry, lui, est toujours en train de pousser des pneus dans un garage pour $1,50 de l'heure. Ses parents ne manquent pas une occasion de le lui rappeler. Ils l'accablent de « Si seulement tu avais pu tourner comme ton frère !» Jerry finit par s'enfuir de chez lui. Pourtant, à un niveau subconscient, il est toujours persuadé de la supériorité de l'Afid. Il se croit d'abord sauvé, mais il ne tarde pas à voir partout des Afids, dans ses cheveux, dans la maison. Son complexe d'infériorité s'est mué en une sorte de culpabilité sexuelle. Les Afids sont une punition qu'il s'inflige à lui-même, etc. L'histoire ne lui paraissait plus drôle à présent. Il avait fallu embarquer Jerry au beau milieu de la nuit, à la demande de ses amis. Tous ceux qui étaient présents ce soir-là avaient pris ensemble la décision. On ne pouvait plus l'éviter, ni en retarder le moment. Jerry s'était mis en tête d'empiler contre la porte d'entrée tout ce qui traînait dans la maison. Dans les 500 kilos d'objets divers, y compris les chaises et les canapés, le frigo et la télé. Il prétendait devant tout le monde qu'un Afid géant et doté d'une intelligence supérieure venait de débarquer d'une autre planète. Le monstre s'apprêtait à enfoncer la porte afin de s'emparer de lui. Et ses petits copains suivraient si jamais Jerry parvenait à éliminer celui-ci. Ces Afids extraterrestres étaient beaucoup plus malins que les humains. Ils n'hésiteraient pas à passer à travers les murs si nécessaire, révélant ainsi leur pouvoir secret. Son seul recours pour gagner du temps consistait à inonder la maison de cyanure, et il le ferait si nécessaire. Par quel moyen? Il avait déjà scellé hermétiquement portes et fenêtres. Il se proposait ensuite d'ouvrir tous les robinets de la cuisine et de la salle de bain. D'après lui, la citerne du garage contenait du cyanure et non de l'eau. Il le savait depuis longtemps, mais gardait ce dernier atout dans sa manche. Évidemment, tout le monde mourrait, mais l'assaut des Afids supérieurs échouerait. Ses amis avaient appelé la police. Celle-ci dut enfoncer la porte avant d'embarquer Jerry pour la clinique neurologique pour aphasique. Les dernières paroles de Jerry furent « Apportez-moi mes affaires plus tard, ma nouvelle veste avec des perles dans le dos. » Il venait d'acheter cette veste et l'adorait. C'était d'ailleurs la seule chose qu'il aimait encore. Les autres objets en sa possession, estimait-il, étaient contaminés. « Non, songea Bob Arctor, tout ça n'est plus drôle. » Il se demanda comment ça avait pu l'être un jour. Peut-être à cause de la peur, cette peur terrible que tout l'entourage de Jerry avait ressentie au cours des dernières semaines. Jerry leur disait qu'il se levait parfois la nuit et rôdait dans la maison armé d'un fusil de chasse, car il sentait la présence d'un ennemi. Il était prêt à tirer le premier, et son adversaire de même. « Maintenant, se dit Arctor, c'est moi qui ai un ennemi. En tout cas, je viens de croiser sa piste. » Il a laissé des traces. Un autre défoncé au dernier degré, comme Jerry. Et la phase terminale, avec cette merde, ça rigole pas. Quand ça cogne, ça cogne. Mieux que n'importe laquelle des Ford ou des GM modèles spéciales qu'on voit dans les pubs de la télé aux heures de grande écoute. On frappa à la porte. Arctor glissa sa main sous l'oreiller et la referma autour de son arme. « Ouais ?»« Mubble, mubble. » La voix de Barris. « Entre !» Il tendit le bras et alluma sa lampe de chevet. Barris s'avança en clignant des yeux. « Tu dors pas ?»« J'ai fait un rêve qui m'a réveillé. Un rêve religieux. Il y avait un énorme coup de tonnerre et les cieux s'entrouvraient. Dieu apparaissait pour m'engueuler. Sa voix était furibarde. Qu'est-ce qu'il racontait déjà ?»« Ah oui, tu m'as causé grand déplaisir, mon fils. » Il fronçait les sourcils. Dans le rêve, je tremblais. Je levais les yeux vers lui et je disais « Qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur ?» Et il me répondait « Tu as oublié de reboucher le tube de dentifrice. » Alors là, j'ai compris qu'il s'agissait de mon ex-femme. Barris s'assit et posa les mains sur ses genoux, astiquant au passage le cuir de son pantalon. Il hocha la tête, puis se décida à affronter Arctor. Il paraissait de fort bonne humeur et prit la parole avec vivacité. « Eh bien, j'ai déjà une théorie concernant l'auteur, qui pourrait frapper encore, du sabotage systématique de ton céphascope. Si tu t'apprêtes à dire que c'est Luckman, écoute-moi. Baris se balançait d'avant en arrière, l'air agité. Et si je te disais que j'ai prévu voici plusieurs semaines qu'un de nos appareils allait subir des dégâts sérieux, et je pensais particulièrement à un appareil coûteux, difficile à réparer. Ma théorie exigeait que ça se produise, et ce qui est arrivé ne fait qu'en confirmer les grandes lignes. Arctor le dévisagea. Baris s'affaissa lentement et sembla retrouver son calme en même temps que son sourire éclatant. Il pointa un doigt en direction d'Arctor. « Tu crois que c'est moi ? Tu crois que j'ai bousillé mon propre céphascope qui n'est même pas assuré ?» Arctor sentit la rage et le dégoût l'envahir. Et il se faisait tard. Il avait besoin de son sommeil. « Non, non !» s'empressa de répondre Baris, l'air peiné. « Tu as le responsable devant toi, celui qui a bousillé ton céphascope. Voilà ce que je m'apprêtais à te dire, si tu m'en avais laissé la possibilité. Toi ?» Arctor écarquilla des yeux stupéfaits. Une lueur trouble de triomphe dansait vaguement dans le regard de Baris. « Pourquoi ? Enfin, c'est la conclusion de ma théorie. J'ai agi sous suggestion post-hypnotique, naturellement, et avec un barrage amnésique afin que je ne puisse pas me rappeler. » Il se mit à rire. Plus tard, Arctor éteignit sa lampe de chevet. « Tu m'en parleras beaucoup plus tard. » Baris se leva, mal assuré. « Mais tu ne vois donc pas ? Je possède la formation avancée en électronique et j'ai accès à l'appareil. Je vis ici. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est le mobile. Tu as fait ça parce que tu es cinglé. Peut-être ai-je été engagé par des puissances secrètes ? » murmura Baris d'un ton perplexe. Mais quel serait leur motif ? Semer le soupçon et la confusion parmi nous, provoquer une dissension ? Possible. Nous dresser les uns contre les autres, de manière qu'on ne sache plus à qui faire confiance, qu'on ne distingue plus nos ennemis, et ainsi de suite. Dans ce cas, ils ont réussi. Mais dans quel but feraient-ils ça ? Baris se dirigea vers la porte en battant l'air fiévreusement. Ça présente tellement de difficultés. Il faut se procurer un pass pour entrer, ôter la plaque de base. Je serai bien content quand on aura installé les holocaméras partout dans la maison, songea Arctor. Il toucha son revolver afin de se rassurer, puis se demanda s'il ne devrait pas vérifier que l'arme était chargée. Après ça, je vais me demander si on n'a pas enlevé le percuteur ou la poudre des balles, et ainsi de suite jusqu'à l'obsession, comme un petit garçon qui compte les raies du trottoir pour se rassurer. Le petit Bobby Arctor qui rentre de ses cours de sixième, avec ses livres sous le bras, et tremble devant le territoire inconnu qu'il doit franchir. Il baissa une main et palpa le cadre du lit jusqu'à ce qu'il sente le contact d'un morceau de ruban adhésif qu'il arracha sans même attendre le départ de Baris. Il porta à sa bouche les deux cachets de substance M coupés de couac et les avala d'un coup, sans eau. Puis il se rallongea avec un soupir. « Tire-toi » dit-il à Baris. Et il s'endormit.